le 5 mai 1821, s'éteint à Sainte-Hélène, une île anglaise perdue au milieu de l'océan Atlantique, l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire du monde, l'empereur Napoléon Ier. Très loin de sa prison des flots, l'empereur repose aujourd'hui en cet hôtel des Invalides, au bord de la Seine, au milieu de ce peuple français qu'il a tant aimé, selon les termes de son testament. Au printemps 1815, au lendemain de la défaite de Waterloo, Napoléon doit se rendre à l'évidence. Il a échoué à rétablir son trône. Alors que les rois d'Europe ont décidé de le déclarer hors la loi, il songe à se mettre sous la protection de celle qui fut sa meilleure ennemie, l'Angleterre. Mais la perfide Albion ne l'entend pas de cette oreille. Déporté à Sainte-Hélène, en compagnie d'une poignée de fidèles, Napoléon doit vivre désormais dans une inconfortable bicoque posée sur un plateau humide et battue par les vents, Longwood House. Pendant 6 ans, l'empereur déchu se livre à un duel sans merci avec le pouvoir anglais, incarné par le gouverneur Sir Hudson Lowe, un militaire borné qui se comporte en véritable bourreau. Sur cette petite île volcanique de 122 km², les Anglais sont loin d'être les seuls adversaires. Au fil des jours, Napoléon doit affronter les chamailleries de ses compagnons et la dépression qui rôde, sans oublier une certaine douleur au côté droit qui se fait de plus en plus lancinante. Au terme d'un séjour où la grandeur le dispute au sordide et qu'il n'hésite pas à comparer à la passion du Christ, l'empereur Napoléon finit par s'éteindre à 52 ans. 2 ans plus tard, la publication du mémorial de Sainte-Hélène, écrit durant sa captivité, donne le coup d'envoi de sa légende. En 1840, les cendres de l'empereur Napoléon sont installées dans l'église du Dôme des Invalides à l'intérieur de ce spectaculaire tombeau de quartzite. Mais cette cérémonie grandiose est loin de dissiper tous les mystères qui entourent encore cette mort. Je vous propose de revenir sur cette journée du 5 mai 1821 en compagnie de la poignée de fidèles qui en furent les témoins, minute par minute ou presque.
Vous écoutez Secrets d'Histoire, Napoléon, l'exilé de Sainte-Hélène. Première partie.
Napoléon se plaint depuis plusieurs mois d'une douleur vive au côté droit. On pense qu'il est atteint du foie.
Il transpire énormément, il a de la fièvre.
Ce sont des douleurs très intenses, subites. Il l'appelle parfois des coups de canif ou des douleurs qui se jettent sur lui comme un serpent.
Et cette douleur ne va faire que s'accentuer. Il s'en plaint, et donc, ce qui l'empêche d'ailleurs de bouger. Et dès qu'on essaye de le sortir de son lit, cette douleur est totalement atroce.
Il a quelques minutes par jour de conscience.
Thierry Lenz, historien et directeur de la Fondation Napoléon.
C'est un homme qui est un peu vieilli malgré son jeune âge.
Il paraît relativement calme, presque résigné à la mort.
On a transporté le lit de l'empereur dans le salon de Longwood, qui est la pièce la plus grande et qui surtout a l'avantage d'avoir 2 fenêtres, donc on peut l'aérer plus facilement. Et puis surtout, les allées-venues des domestiques, des médecins, du service sont facilitées.
C'est un salon assez petit, avec une moquette anglaise, du mobilier à l'anglaise fourni par l'ébéniste Belloc. Il y a un papier peint à fleurs bleues au mur, il y a un assez joli lustre, c'est vrai. Donc c'est un endroit assez cossu, mais peut-être plutôt bourgeois.
Quand on pense que Napoléon a logé à l'Escorial, a logé au Kremlin, a logé aux Tuileries...
Jean Tullard, historien.
Cette fin, dans cette petite pièce, sur un lit de camp... donne évidemment une dimension tragique à la mort de Napoléon.
Il a lité dans les lits de camp, ces lits de campagne en fait, qu'il a ramenés à Longwood, qui sont des lits qu'il préfère aux lits traditionnels qu'on pourrait avoir dans une maison.
Napoléon s'est entouré de tous les souvenirs de sa vie passée, l'épée d'Austerlitz posée sur son fauteuil, le manteau de Marengo que portait l'empereur au moment de la bataille de Marengo le 14 juin 1800.
Il a apporté beaucoup de portraits, de gravures de Marie-Louise, du roi de Rome.
Jean-Christophe, prince Napoléon.
Il les positionne tout près de son lit, en fait, pour qu'il puisse les voir le plus possible.
Mais il y a aussi la figure de Joséphine, sa première épouse, qui ne l'a jamais vraiment quittée.
Napoléon, il se comporte en monarque, il veut mourir en monarque, il veut mourir en empereur.
S'installer dans le salon, c'est être dans la pièce publique de Longwood, c'est être aussi installé sur son lit de camp qu'il n'avait jamais quitté, donc c'est déjà rappeler le dieu de la guerre, quelque part. Hein.
C'est une scène de théâtre, c'est la dernière scène de la pièce, et il faut qu'elle soit parfaite.
Jusqu'au bout, cette volonté de contrôle sur son image, sur la façon dont elle sera perçue à l'extérieur, s'impose. Et notamment, on la voit assez bien dans la façon dont Napoléon lui-même dicte un communiqué en blanc annonçant sa mort au gouverneur Hudson Law.
C'est l'empereur Napoléon qui s'exprime, donc il tient bien à marquer que c'est le souverain qui meurt à Sainte-Hélène et non pas le général Bonaparte.
Pierre Branda, historien.
Le titre que lui donnent les Anglais. Hein.
Monsieur le gouverneur. L'empereur Napoléon est mort le, laissé en blanc, à la suite d'une longue et pénible maladie. J'ai l'honneur de vous en faire part. Il m'a autorisé à vous communiquer, si vous le désirez, ses dernières volontés. Sec, sans bavure, propre Napoléon.
Isolé au beau milieu de l'océan entre le Brésil et les côtes d'Afrique, la maison de Longwood à Sainte-Hélène est la prison la mieux gardée du monde. Pour assurer la surveillance de l'illustre captif, deux frégates patrouillent en permanence autour de l'île et 3000 soldats montent la garde à l'extérieur, sous les ordres du geôlier en chef, le major général Sir Hudson Law.
Cela fait des mois et des années que l'Angleterre attend l'issue fatale.
Philippe Séguy, écrivain.
Qui va en quelque sorte définitivement libérer l'Europe de celui que les Britanniques considèrent comme un ogre.
Autour du lit d'agonie, c'est le dernier carré de l'exil. Les dignitaires de la cour impériale, le général Bertrand et son épouse Fanny, le général de Montholon, mais aussi les fidèles serviteurs de Napoléon, le valet de chambre Marchand, ou encore le mamelouk Ali.
Ali dit le mamelouk, alors qu'en fait, il s'appelait Louis-Étienne Saint-Denis, il était de Versailles, mais il avait un uniforme de mamelouk sous l'Empire.
Marchand est le premier valet de chambre de Napoléon, donc c'est celui qui en sait le plus sur son intimité. Et pendant l'agonie, il va veiller l'empereur.
C'est quelqu'un d'extrêmement fin, Marchand. Quelqu'un de très attentionné, très accessible à l'émotion aussi. En tant que tel, il est capable de s'effacer.
Napoléon l'appelle mon fils, mon petit. Ils ont une relation assez tendre.
L'empereur reste sur son lit, couché sur le dos. Parfois, on le met sur le côté parce qu'on a l'impression que ça le soulage. Il émet quelques plaintes. Il respire très, très mal.
On lui change régulièrement sa flanelle pour qu'il ait moins froid. On l'entoure les pieds et les jambes de serviettes chaudes. Et surtout, on est présent. 24 heures sur 24, il y a quelqu'un à côté de lui pour répondre à ses besoins.
Napoléon souffre aussi d'un hoquet, un hoquet qui l'épuise. On va tenter de faire passer ce hoquet, mais par exemple, si on veut lui donner à boire, Napoléon ne retient rien, donc le hoquet, en fait, ne peut pas être vaincu.
On a là un homme qui est un soldat avant toute chose et qui livre son ultime bataille. Et n'oublions pas ce mot terrible qu'il a eu dans la nuit qui précède sa disparition. C'est au cœur de la nuit et brutalement, on aura ce cri déchirant. Ah, ah, la mort!
Ces derniers mots adressés à Bertrand, c'est « qu'est-ce qu'il y a après ?» Il marque un temps d'arrêt et il dit « rien ».
On ne saura jamais si, au fond de lui-même, Napoléon croyait ou ne croyait pas. Souverain, il allait tous les jours à la messe. À Longwood, il entendait la messe assez souvent et il a passé, dans les derniers jours de sa vie, plusieurs heures avec l'abbé Vignali, sans doute pour mettre ses affaires en ordre avec Dieu, et il est probable qu'il a reçu à ce moment-là l'extrême onction.
Dans ces derniers jours, Napoléon n'est plus très lucide, mais il y a des souvenirs qui restent très présents.
Charles-Éloi Vial, Historien.
Il y a d'une part des souvenirs de la petite enfance, il se souvient de la Corse, il parle beaucoup d'Ajaccio, et de l'autre côté, il pense beaucoup à son fils. Il y pense en des phases de lucidité, où il va demander à ce qu'on lui amène un portrait de son fils pour qu'il puisse le contempler une dernière fois, et de l'autre côté, il y pense aussi dans ses moments de délire.
Alors que justement, il est sur son lit d'agonie, Napoléon se plaint au général Bertrand de n'avoir pas su prendre une forteresse. Bertrand fronce le sourcil. En fait, Napoléon poursuit, cette forteresse, c'est votre femme, général. Elle vous a été fidèle et je n'aurais pas eu la possibilité de la séduire. En galant homme, Bertrand n'ajoutera pas un mot.
Le principal médecin de Napoléon, c'est le docteur Antomarchi, qui est un Français originaire de Corse et qui est en quelque sorte le médecin de l'empereur. Donc seul lui, en principe, a le droit de le soigner.
Alors Antomarchi est un excellent préparateur pour la dissection, mais ça ne fait pas de lui un grand médecin. Napoléon est entouré de soins médicaux, sachant que cet homme extrêmement pragmatique n'a véritablement aucune confiance en la médecine. Antomarchi, malgré tout, fait des essais. Il prend soin de son patient.
Il est glacé, alors le docteur Antomarchi va essayer de lui mettre une bouteille d'eau chaude sur l'estomac pour le réchauffer, va lui appliquer un cataplasme sur la plante des pieds.
Après avoir tenté d'autres choses, notamment un émétique pour le faire vomir, on donne à Napoléon une potion qu'il a lui-même interdite. Une solution de calomel, c'est de la poudre mélangée avec principalement du mercure. On appelle aussi le mercure doux. 10 grains de calomel, ça équivaut à environ un peu plus de 5 grammes.
Et le fidèle marchand va lui en administrer en cachette. Ce qui lui vaudra quand même ces mots terribles prononcés par l'empereur. « Ah, ah, toi aussi, tu me trahis. »
On administre une dose de cheval de mercure, ce qui a pour effet de provoquer des hémorragies internes à Napoléon. Et en fait, il va se vider de son sang. À l'époque, il faut survivre à la maladie et au médecin. Et bon, Napoléon ne survivra ni à l'un ni à l'autre.
Et progressivement, il va tomber dans une sorte d'apathie, ponctuée de vomissements fréquents. Son corps va rendre des matières noires qui, d'après un témoin, évoquent le marc de café. Et il entre progressivement dans l'agonie.
Le pouls était très faible ou le pouls était intermittent. Plusieurs fois dans la journée, on a pensé que c'était le moment de sa mort.
Quasiment ses dernières paroles vont être armée, tête de l'armée. Et puis, il demande à Marchand « Comment s'appelle mon fils ?» Évidemment, Marchand lui répond « Napoléon ».
Les uns et les autres sont suspendus en quelque sorte au soupir de Napoléon qu'on va vérifier régulièrement.
Émilie Robbe, conservatrice en chef au musée de l'armée.
Puis, dans le dernier moment, un premier soupir, un deuxième soupir, un troisième et tout le monde retient sa respiration, on attend le suivant. Et c'est le moment où on s'est aperçu que Napoléon était mortel.
Madame Bertrand, probablement, se lève et, comme on le faisait à l'époque dans la maison des morts, arrête la pendule. Il est 5h49, Napoléon est mort.
C'est une civilisation dans laquelle on laisse couler ses larmes assez facilement, sans doute plus qu'aujourd'hui. Et les larmes pleuvent abondamment dans la chambre de Longwood à ce moment-là.
Le visage de l'empereur va paraître dans les heures qui suivent le décès, de plus en plus apaisé, de plus en plus serein. Et on le trouve beau. Et c'est la beauté de cet homme mort, de l'empereur des Français, mort sur son lit d'agonie, qui frappe, je dirais véritablement, les gens qui l'entourent.
Le contraste, l'image en fait, d'un homme aussi puissant, empereur, maître du monde, qui termine sa vie sur le rocher de Sainte-Hélène, ne peut que frapper les imaginaires.
C'est vraiment la mort dépouillée. Et c'est précisément parce que cette mort est dépouillée, parce qu'il ne prononce pas des paroles définitives, que cette mort va prendre ensuite une dimension légendaire.
Le château de Fontainebleau est sans doute le château préféré de Napoléon, celui qu'il a le plus embelli, et c'est sans doute aussi celui qui garde le plus de traces de son règne. Cet imposant bureau en acajou signé de l'ébéniste Jacob. Il provient du palais de l'Élysée. Le 22 juin 1815, au lendemain de sa terrible défaite à Waterloo, Napoléon s'y est sans doute attablé pour dicter et signer son abdication définitive. « Je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France. Ma vie politique est terminée et je proclame mon fils sous le titre de Napoléon II, empereur des Français. » Pour l'homme qui a régné sur le continent et fait trembler le monde, l'heure est maintenant à l'exil. Le chef du gouvernement provisoire, Joseph Fouché, lui certifie que les Anglais ne refuseront pas de lui octroyer les sauf-conduits nécessaires. Malgré la confiance limitée qu'il porte à son ancien ministre de la police, l'empereur, fatigué et démoralisé, se laisse convaincre. Quittant Paris en souverain, il emmène avec lui une suite de 64 personnes, officiers et domestiques. Avec l'accord du gouvernement, il emporte également 200 millions de francs, une fortune considérable dont la majeure partie a été confiée au banquier Lafitte à Londres. Il souhaite maintenant rejoindre l'Amérique où il rêve de commencer une nouvelle vie. En attendant les laissez-passer promis, il prend la direction du port de Rochefort en Charente-Maritime où deux frégates se tiennent prêtes, la Salle et la Méduse.
Quand il arrive à Rochefort, il y a bien les deux frégates, mais il n'y a pas les sauf-conduits.
Très vite, il va se rendre compte qu'il ne pourrait pas sortir de Rochefort sans avoir à combattre une flottille anglaise.
Et il comprend qu'il est tombé dans un piège, qu'il est donc prisonnier à Rochefort des Anglais qui entourent le port.
D'abord embarqué sur la frégate La Salle, Napoléon, lassé d'attendre le signal du départ, demande à être conduit sur la petite île d'Aix, à 5 km des côtes françaises. Accueilli chaleureusement par la population avec sa suite, il s'installe dans la plus belle maison de l'île, celle du gouverneur.
Il reçoit beaucoup de visiteurs et il est évident qu'il réfléchit à la décision qu'il doit prendre.
Christophe Pincemaille, historien.
Et là, il y a deux options qui se présentent à lui. Soit il obtient les laissez-passer et c'est le départ pour l'exil aux États-Unis. Soit il n'obtient pas les laissez-passer et on force la surveillance anglaise, ce qui veut dire que les frégates qui le transporteront vont engager le combat contre les navires britanniques.
Pour pouvoir se rendre en Amérique, Napoléon aurait dû ruser. On lui a proposé de se cacher à fond de cale.
Il ne veut pas partir comme un fuyard et il craint beaucoup le ridicule. Il craint d'être intercepté et puis en quelque sorte de mettre un peu fin à sa légende en étant attrapé tel un fuyard. Donc il imagine une autre solution.
Napoléon est un joueur. Comme tous les joueurs, tant qu'il a des cartes en main, eh bien, il est prêt à continuer la partie.
Patrice Guénifé, historien.
Et pour lui, c'est là, dans le fait que les Anglais n'ont jamais capitulé devant lui, mais lui-même n'a jamais capitulé devant les Anglais, et il pense qu'au fond, l'esprit chevaleresque des Anglais va lui bénéficier, que les Anglais vont lui accorder l'asile.
Bref, il choisit finalement de se rendre aux Anglais.
Le 13 juillet 1815, Napoléon se décide finalement à écrire au prince régent d'Angleterre « Altesse royale, en butte aux factions qui divisent mon pays et à l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe, j'ai terminé ma carrière politique et je viens, comme Thémistocle, m'asseoir sur le foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ses lois que je réclame de votre Altesse royale comme du plus puissant, du plus constant et du plus généreux de mes ennemis. » En faisant référence à Thémistocle dans cette lettre au prince régent, c'est la référence au vaincu qui se rend à son vainqueur, mais qui reçoit de son vainqueur une hospitalité qui lui permettra d'ailleurs de s'installer à la cour de son adversaire.
Napoléon fait appel à la générosité du prince régent, une qualité dont ce dernier est totalement dépourvu.
Tim Clayton, historien.
Il a peut-être espéré que les Anglais se montreraient généreux avec lui à long terme. Mais il n'était pas non plus sans savoir que la plupart d'entre eux voyaient en lui un ogre, le tyran honni qu'ils avaient enfin réussi à vaincre.
Sans attendre la réponse du prince régent, Napoléon se rend à bord du plus proche vaisseau anglais, le Bellérophon. Il est conduit sans tarder en rade de Plymouth, où il attend l'autorisation de débarquer.
Quand Napoléon s'est rendu à la Royal Navy, cela a suscité une excitation considérable en Angleterre.
Andrew Roberts, historien.
Les gens venaient d'Écosse pour tenter de l'apercevoir. L'engouement pour lui était énorme. Dans la rade de Plymouth, les gens grimpaient dans de petites embarcations pour essayer de le voir de plus près. On l'applaudissait, tellement son image était celle d'une superstar. À ce moment, Napoléon pense vraiment avoir une chance d'être admis à s'asseoir au foyer du peuple britannique, comme il dit.
Mais là, les officiels britanniques viennent le voir dans la plus belle des cabines qu'on a mis à disposition de l'ex-empereur des Français, et on lui dit, ce ne sera pas l'Angleterre, ça ne sera jamais l'Angleterre, ça sera l'île de Sainte-Hélène. Et là, il explose. Et il dit, vous m'avez trahi.
D'un certain côté, Napoléon est à plaindre. Mais il ne faut pas oublier que les 100 jours depuis son retour de l'île d'Elbe ont causé 100 000 morts et blessés des deux côtés. C'est pourquoi le gouvernement britannique n'est pas prêt de l'envoyer dans un endroit d'où il pourrait s'échapper à nouveau.
Petit à petit, il se résigne. Il semble accepter cette décision, du moins en apparence. En fait, il a une conversation avec Lascaz, où il dit en substance à Lascaz, « Eh bien, je pourrais en finir là, et je n'ai qu'à me jeter à l'eau, et tout sera, ce serait fini. » Mais il rajoute cette phrase magnifique, il dit, « Mais il est très difficile d'en terminer avec l'espérance et la gloire. »
Embarqué sur un vaisseau de guerre, Napoléon apparaît le 8 août sous bonne garde pour l'île de Sainte-Hélène. Parmi les exilés volontaires qui ont accepté de le suivre par fidélité ou par intérêt, il y a les généraux Bertrand et Montholon, accompagnés de leur épouse. Il y a aussi le bouillant général Gourgaud ou encore le comte de Lascaz, un ancien conseiller d'État venu avec son fils qui a le projet d'écrire sur l'empereur. La traversée interminable dure 67 jours.
Le 14 octobre, le Northumberland arrive en vue de Sainte-Hélène et les réactions de l'entourage de Napoléon sont catastrophées parce que c'est une île qui de loin est assez sinistre avec des falaises extrêmement hautes. Une des dames de l'entourage de l'empereur se serait exclamée « C'est le diable qui a chié cette île en volant d'un monde à l'autre ».
Ils comprennent que c'est à la fois une prison et peut-être un tombeau parce que ça y ressemble.
Ce tas de cailloux en pleine Atlantique Sud est à 3000 km des côtes brésiliennes.
Napoléon connaissait déjà en fait l'île de Sainte-Hélène. Il avait annoté même dans l'un de ses carnets de jeunesse, en apprenant la géographie, Sainte-Hélène, virgule, petite île. Donc c'est pour moi une ironie du sort si jamais il avait su à ce moment-là qu'il terminerait sa vie sur l'île de Sainte-Hélène.
En attendant que les Anglais achèvent de préparer sa résidence, Napoléon loue un pavillon au Briard, une maison de campagne des environs de la seule ville, Jamestown.
Et au départ, il est séduit par l'endroit, par les Briards, hein, qui sont à l'abri des vents, assez fleuris. Il aime ces cadres de verdure. Napoléon a toujours aimé les endroits bucoliques, et donc il aime ce cadre.
Lorsqu'il séjourne au Briard, Napoléon passe beaucoup de temps avec la famille Balcombe. Dans la famille Balcombe, il y a le père, la mère et les deux filles. Et parmi les deux filles, il y a la petite Betsy, et avec qui Napoléon va beaucoup jouer, chahuter.
Il joue à Colin Maillard avec elle va le menacer avec son épée.
Il va se laisser appeler Bonnie, comme on appelait Napoléon en Angleterre. Et véritablement, il va avoir, à l'égard de cette petite fille, un rôle quasi paternel. En tout cas, il y prend beaucoup de plaisir.
Il faut imaginer cet empereur déchu avec cette jeune fille anglaise qui a à peine 15 ans. Et Napoléon semble même préférer cette jeune fille pour sa compagnie plutôt que ses compagnons d'exil, ce qui va entraîner déjà des premières jalousies.
Deux mois après son arrivée, Napoléon déménage pour Longwood House. Sur 1000 mètres carrés répartis en une vingtaine de pièces, cette construction d'un étage en forme de T a été choisie par les Anglais pour l'abriter avec la cinquantaine de personnes de sa suite.
Alors, Napoléon dispose de manière privative et véritablement confidentielle essentiellement de trois petites pièces, à peine de moins de 10 mètres carrés, un petit cabinet de travail, ensuite une petite chambre et ensuite une salle de bain.
La maison de Longwood, il s'emploie à l'embellir, il apporte des souvenirs personnels, il apporte du mobilier.
Pourquoi on choisit Longwood? C'est parce que c'est beaucoup plus facile à surveiller. C'était une ferme sur un plateau isolé qui était devenue la résidence d'été d'un gouverneur.
Napoléon est contraint à résidence à Longwood House.
Léa Charlicard, commissaire d'exposition au musée de l'armée.
Il peut aussi librement se promener dans les jardins, mais la surveillance s'établit en cercle concentrique autour de lui. Et s'il veut faire une balade à cheval, s'il veut se promener, il doit être escorté par les Anglais. La surveillance n'est pas forcément très discrète, se rapproche la nuit, essaye d'avoir le maximum d'informations sur ce qui peut se passer à l'intérieur de Longwood, qui est la raison pour laquelle Napoléon va fermer les persiennes.
On a aménagé dans un des volets une petite percée et là, avec sa longue vue, sa lorgnette, il regarde ce qui se passe de l'autre côté.
Ça l'amuse beaucoup, ça le distrait. Les Britanniques sont tellement désespérés de ne pas voir l'empereur que certains vont se cacher dans les buissons du jardin en espérant le surprendre. Donc c'est vraiment une sorte de jeu de cache-cache.
En arrivant à Longwood, Napoléon est toujours empereur pour lui. Et donc, il veut opposer au règlement de captivité que les Anglais lui imposent son propre règlement.
Bien, même Longwood, cette petite maison, va devenir palais impérial. Elle va être soumise à l'étiquette avec un protocole extrêmement strict, car il le dira, « Je ne suis empereur que par ça ».
On ne peut pas entrer dans une pièce ou sortir d'une pièce sans l'autorisation de l'empereur. On ne peut pas s'adresser à lui. Il faut qu'il vous adresse la parole en premier. Il exige ce qu'on appelle toujours majesté.
Il ne tolère aucune dérogation à l'étiquette. Et quand il y a un visiteur de marque qui s'annonce, c'est Napoléon lui-même qui inspecte les habits, les souliers, etc. pour être sûr qu'il ne paraisse pas comme un empereur abandonné, devenu misérable.
Longwood va continuer à le traiter comme s'il était toujours sur le trône, alors que les Anglais, au contraire, ne voient que le général Bonaparte, qui est pris de la folie des grandeurs et qui se prend pour un empereur qu'il n'est pas.
Malgré son isolement, la petite île est une étape entre l'Inde et l'Angleterre. À peine débarqués, les voyageurs anglais n'ont qu'une obsession, rencontrer Napoléon.
Napoléon reçoit beaucoup de monde. Il a reçu environ à peu près 500 personnes. Donc pour un prisonnier, c'est quand même considérable. Napoléon peut recevoir des capitaines de bateaux, des lieutenants, enfin des personnes qui ne sont pas forcément de marque.
Des ladies anglaises, épouses de membres du gouvernement, d'officiers britanniques, et qui demandent à visiter celui qui a fait trembler l'Europe.
On patiente d'abord dans la salle de billard, en attendant d'être reçu. Ensuite, on est reçu au salon pour les personnes, on va dire, de moindre importance. Et celles qui sont plus importantes sont reçues dans la salle à manger.
Pour impressionner ses visiteurs, Napoléon n'hésite pas à déployer un faste digne de son statut d'empereur, dont le musée du Louvre conserve le témoignage.
Il compte s'en faire des alliés, c'est-à-dire il pose beaucoup de questions, il compte séduire, et il sait que tous ces gens-là vont retourner en Angleterre ou en Europe, et donc ils vont parler de lui en bons termes et comme ça influencer.
Malheureusement pour Napoléon, les navires en escale n'amènent pas dans la maison
que de charmantes ladies anglaises.
Il faut lutter contre un envahisseur qui est pire, je dirais presque aux yeux de l'empereur, que les Prussiens ou les Britanniques, ce sont les rats. Et la maison de Longwood est littéralement infestée de rats et on se bat à coups de tire-bottes, à coups de pique-feu contre des rats.
Parce qu'on a dû grillager les bibliothèques pour justement qu'ils n'aillent pas dévorer les livres de Napoléon, parce que c'est quand même la lecture, c'est son passe-temps favori.
Napoléon veut prendre son chapeau à une patère et le rat est à l'intérieur du chapeau.
Ça va vraiment être un problème permanent et récurrent, parce qu'au départ, on utilise de la mort au rat pour essayer d'éliminer ces petites bêtes. Seulement, les rats meurent dans les cloisons, donc ça dégage des odeurs pestilentielles. On finira par recourir à des pièges que les domestiques chinois mettent en place, installent, et eux-mêmes se régalant des rats, puisque de toute évidence, ils les cuisinent pour eux-mêmes.
Chaque soir, la suite de l'empereur est conviée à dîner dans la salle à manger de Longwood. Tout le monde doit être en tenue de cour, c'est-à-dire robe de cour pour les dames, grande tenue pour les messieurs, avec une température assez chaude, un fort degré d'humidité.
Il a une partie de son service en or massif et dans la salle à manger de Longwood, on va dresser une table qui permettra que soit donné un grand dîner de gala.
En principe, chaque invité a un valet qui s'occupe de lui. Comme on n'a pas assez de personnel français, on va même employer à cette tâche des soldats anglais qui feront le service à table du général Bonaparte, mais qui, en l'espèce, est redevenu l'empereur Napoléon.
Pierron est le cuisinier de l'empereur. Il a aménagé dans les jardins un potager, mais tout le monde se plaint, femmes et hommes à la table impériale, de l'ordinaire qui est extrêmement mauvais.
La table de Longwood n'est pas toujours aussi fournie qu'une table française de l'époque, mais elle est quand même assez enviable. Il y a des viandes, des potages, des entrées, des entremets, des desserts. Le cuisinier Pierron est un pâtissier formidable.
Et Napoléon va notamment avoir des beignets à la banane flambés au rhum, ce qu'il n'avait pas forcément quand il était aux Tuileries.
Napoléon était assez coutumier du fait de manger très rapidement et souvent avec les doigts. Et au dîner, c'était un enfer pour les dames qui y étaient associées, surtout de le voir s'essuyer sur ses culottes.
Le vin qui est servi à table à Longwood pour l'empereur est d'abord le vin de Constance, qui est un vin qui d'Afrique du Sud, qui est amené par bateau du Cap. C'est effectivement l'approvisionnement le plus facile. Des vins vont être envoyés de France assez peu, finalement, parce que beaucoup de vins français supportent mal le voyage 2 à 3 mois de mer. Donc quelques Bordeaux passeront, mais pas le Chambertin, par exemple, le vin préféré de Napoléon.
Comme les Français s'ennuient, comme les Français sont sous pression et sans doute assez malheureux d'être si loin de chez eux, dans l'entourage de Napoléon, que ce soit les officiers ou les domestiques, on va boire énormément. On voit les factures d'alcool qui sont assez effarantes. Donc il peut y avoir plusieurs centaines de bouteilles de whisky qui sont consommées à Longwood tous les mois, ce qui est assez effrayant. Napoléon, lui, boit très peu. Il boit en général un tout petit verre de vin coupé d'eau pour son repas et parfois, exceptionnellement, un fond de champagne pour aller avec le dessert, mais c'est quelqu'un de très sobre.
Napoléon refuse d'être un prisonnier de guerre, refuse d'être prisonnier, donc toute sa politique consiste à nier ce fait-là.
Ça n'est pas un homme résigné, mais au contraire, qui considère qu'il a encore quelques cartes à jouer, non pas pour revenir au sommet des affaires, mais pour que son sort soit le sort d'un captif mieux respecté qu'il ne l'est à Sainte-Hélène.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demeaux. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras et Tim Dombouche. avec la voix d'Isabelle Benadj.